Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La grande résurrection, celle qui est au cœur des évangiles, c'est bien sûr la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir enfin rendu à Dieu un culte parfait par son sacrifice sur la croix, après y avoir en même temps vaincu Satan et le péché, après avoir ainsi rétabli la justice dans toute la création, l'âme humaine de notre divin Sauveur a d'abord voulu descendre pour allumer la lumière dans le séjour des morts en y annonçant sa victoire. Puis, sans tarder, elle est remontée reprendre et illuminer son propre corps de façon nouvelle et définitive, inaugurant ainsi un nouveau monde et un nouveau mode de vie, la vie glorieuse des élus. La résurrection du jeune homme de Naïm, dont nous venons d'entendre le récit, n'a évidemment pas la même importance. Ce n'est qu'une résurrection temporaire à une vie mortelle, comme les autres résurrections déjà obtenues par les prophètes de l'Ancien Testament et celles qu'obtiendront les apôtres et un certain nombre de saints. Ce n'est encore qu'une résurrection imparfaite à une vie qui devra finir. Mais ce n'en est pas moins déjà un miracle éclatant qui dépasse de très loin tout ce que peut la science des hommes et qui dépasse également le pouvoir des démons. Dieu seul peut ressusciter, même à une vie terrestre, car Dieu seul est maître de la vie et de la mort. Dieu seul. Or, précisément, mes frères, avez-vous remarqué le caractère d'autorité avec lequel Jésus opère cette résurrection? Beaucoup d'entre vous ont sans doute encore en tête les résurrections qui avaient été obtenues par les prophètes Élie et Élisée. L'Église en donne le récit pendant la liturgie du carême. Quel contraste avec ce que nous venons d'entendre. Dans l'Ancien Testament, les prophètes prient longuement auprès du corps des défunts. Ils s'inclinent sur lui, ils se relèvent à plusieurs reprises, ils supplient Dieu pendant des heures avant d'obtenir que le mort revienne à la vie. Notons au passage qu'on trouve des scènes analogues dans l'Église primitive. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, dans son ouvrage « Contra Hereses », signale qu'il y a à son époque de nombreux miracles de guérison et même, ajoute-t-il, même quelques résurrections. Mais il ajoute qu'elles ont été obtenues par de longues veillées de prière où toute la communauté chrétienne réunie par l'évêque à l'occasion d'une mort particulièrement douloureuse avait supplié le ciel avec instance. Or, dans le récit que nous venons d'entendre, rien de tel. On ne voit même pas Jésus lever ses yeux vers le ciel comme il le fait en certaines occasions. Il se contente d'ordonner en quatre mots « Adolescens tibi dico surge » « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». C'est un commandement donné de façon très brève, sans aucune prière, aucun geste de prière au moins, aucune invocation d'une autorité supérieure. La simple parole du Christ se suffit à elle-même, « Je te le dis, lève-toi ». Et l'on trouve le même accent d'autorité, la même concision et la même façon d'interpeller le défunt dans les trois résurrections faites par notre Seigneur qui sont rapportées par les évangiles. Dans le cas de la fille de Jaïr, que Jésus ressuscitera quelques mois plus tard à Capharnaüm, on connaît même la phrase araméenne utilisée par notre Sauveur. Elle était sans doute restée dans l'oreille et dans la mémoire de saint Pierre. Et l'évangéliste nous donne cette phrase en araméen, « Talita koumi », ce qui signifie « Petite fille, lève-toi ». Et vous remarquez que c'est tout à fait semblable à ce que nous venons d'entendre à Naïm, « Adolescens surge », »,« Jeune homme, lève-toi ». Enfin, plus tard encore, dans le cas de Lazare, à Béthanie, il s'agit d'un ami que Jésus interpellera donc par son nom propre, en criant d'une voix forte à l'entrée du tombeau, « Lazare, viens à l'extérieur ». Et aussitôt, bien qu'encore emmêlé dans ses bandelettes, Lazare sortira. Dans les trois cas, Jésus parle et agit en Dieu, en maître absolu de la vie et de la mort. Mais, dans les trois cas, Jésus réagit aussi en homme véritable, doté d'une nature non seulement rationnelle, mais aussi sensible, et sensible en particulier aux sentiments des autres humains, qui viennent immédiatement ébranler son propre cœur. Jésus ne peut voir les larmes de cette pauvre veuve qui vient de perdre son fils unique sans être immédiatement frappé de compassion. « Misericordia motus », dit l'Évangile. Et s'il agit vraiment en Dieu en ressuscitant ce jeune homme, c'est pour ainsi dire sous la pression de ses larmes de cette mère, ces larmes qui viennent émouvoir son cœur humain. Et de même dans les autres cas, ce n'est aucunement par ostentation ou par caprice que Jésus ressuscite la fille de Jaïr, mais pressé par le Père qui est venu le supplier alors qu'elle n'était pas encore morte, en fait. Il vient le voir alors qu'elle est mourante et lui demande de venir. Et Jésus s'apprête à le suivre, mais sur le chemin, il est arrêté par d'autres personnes, notamment par une femme qui lui demande aussi de la guérir. Et finalement, avant même d'arriver à la maison de Jaïr, un des serviteurs vient prévenir que la petite fille est morte, en disant « ce n'est plus la peine de continuer à importuner Jésus, c'est trop tard, la petite fille est morte ». Et c'est alors que Jésus se retourne vers le Père et lui dit simplement « N'ayez pas crainte, croyez seulement ». Donc, il l'incite à faire un acte de foi. Et ensuite, lorsqu'il arrive dans la maison de Jaïr et qu'il voit tout le monde en larmes, en pleurs, en gémissements, il s'écrie « Pourquoi vous troublez-vous et pourquoi pleurez-vous ainsi ?» Enfin, et c'est là sans doute ce qui nous impressionne le plus, il y a le cas de Lazare où Jésus se laisse émouvoir au point de pleurer lui-même. L'Évangile le dit, il a versé des larmes. Et spontanément, on s'interroge, on se demande, mais pourquoi a-t-il pleuré, puisqu'il savait qu'il allait le ressusciter dans quelques instants. Eh bien, c'est tout simplement que notre Seigneur n'a pas voulu se protéger de cette sorte de contagion des sentiments humains, et en voyant pleurer toutes ces personnes, notamment les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et les autres juifs qui étaient là, dit l'Évangile, il a été comme pénétré des sentiments qu'ils avaient, il n'a pas voulu résister à cela, il a voulu pleurer avec ceux qui pleurent. Et l'Évangile nous dit qu'il a comme un frémissement d'esprit, in fremuit spiritu et turbavit se ipsum, et il fut troublé, et et lacrimatus est, et il versa des larmes. Et ensuite, il s'adresse à Marthe, et il lui fait faire à elle aussi un acte de foi. Est-ce que je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et donc, il l'incite à croire avant de faire le miracle de la résurrection de Lazare. Nous voyons donc dans ces trois résurrections, clairement, Jésus qui agit en tant que Dieu et en même temps qui manifeste ses sentiments humains. Il est entraîné à ressusciter le mort par cette compassion pour les compagnons du mort qui viennent soit l'interpeller, soit au moins lui montrer leurs larmes. Ce sont les ressemblances. Il y a quand même un certain nombre de différences à noter entre ces trois scènes de résurrection. D'abord, une différence de situation. Parce que la résurrection dont nous venons d'avoir le récit, celle de Naïm, a eu lieu tout au début de la vie publique de notre Seigneur, à une époque où, pour ainsi dire, il ne rencontre pas d'opposition. C'est très peu de temps après le discours sur la montagne où Jésus a déclaré « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et face à cette femme qui pleure, il a l'occasion de mettre en pratique cette béatitude et de consoler celle qui pleure pour nous montrer comment il vient consoler les âmes. On remarque aussi que cette résurrection est comme le sommet d'une progression des miracles que fait notre Seigneur. Il a commencé par faire le miracle de changer l'eau en vin, il y a ensuite des miracles de guérison, et il y a là la première résurrection, au moins la première que raconte l'Évangile, et elle arrive juste à temps, puisque c'est à ce moment-là, juste après, que les disciples de Jean-Baptiste viennent lui demander de la part de Jean-Baptiste « Es-tu celui qui doit venir ?» Et que répond Jésus? Il donne comme réponse la citation d'Isaïe qui annonçait les œuvres du Messie en disant « Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. » Et notre Seigneur peut citer cette phrase puisqu'il vient de ressusciter ce jeune homme Naïm. Ça, c'est donc la première résurrection qui se fait en plein jour, à l'entrée de cette petite bourgade de Naïm, devant beaucoup de témoins. La deuxième est très différente. Elle n'a lieu pourtant que quelques mois plus tard. C'est la fille de Jaïr à Capharnaüm. Mais déjà, notre Seigneur se trouve face à l'opposition des pharisiens. Déjà, il va essayer de se cacher pour ne pas exciter leur haine et leur jalousie. Et notre Seigneur écarte la foule pour se rendre chez Jaïr et demande à n'être suivi que par trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et encore une fois arrivé dans la maison, il écarte tous ceux qui sont là pour que le miracle n'ait lieu que devant la famille, et il recommande à la famille de ne pas ébruiter la chose. La chose restera quand même bien connue de la communauté chrétienne, puisque Jaïr n'est pas n'importe qui, c'est le chef de la synagogue locale. On peut donc supposer qu'il est devenu chrétien après ce miracle éclatant et que ça a été donc une des personnalités de la première communauté chrétienne à Capharnaüm. Mais le miracle a lieu à l'intérieur d'une maison et comme caché, notre Seigneur demande à ce qu'on ne l'ébruite pas. Et on comprend pourquoi, en voyant le troisième miracle de résurrection, qui est celui de Lazare, qui lui aussi se fait presque dans la dissimulation, puisque notre Seigneur se rend en Judée, se rend tout près de Jérusalem, aux portes de Jérusalem, Béthanie est à quelques kilomètres, ce qui passe pour une provocation pour les pharisiens, et les apôtres essayent de l'en dissuader, essayent d'essayer de dissimuler sa venue à cet endroit. Mais Jésus vient quand même, opère cette résurrection, et saint Jean montre très bien que c'est cette résurrection qui apparaît pour les pharisiens, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui les décide à faire condamner à mort Jésus. Et en montrant cela, saint Jean souligne l'aveuglement de ces gens, qui veulent se débarrasser de quelqu'un qui vient de ressusciter un mort en le mettant à mort. C'est contradictoire, mais pourtant c'est bien ça, c'est la résurrection de Lazare qui précipite les choses. Donc ces trois résurrections ont une place très différente dans l'Évangile, et on remarque aussi que notre Seigneur a voulu guérir trois personnes d'âges différents. Un petit enfant, une petite fille, un adolescent et un homme mûr. Et les pères de l'Église y voient l'illustration de ce que notre Seigneur vient faire dans les âmes lorsqu'il leur rend la grâce surnaturelle. Puisque cette résurrection, comme tous les miracles de notre Seigneur, est l'image de ce que notre Seigneur vient faire dans nos âmes. Jésus a voulu guérir des aveugles, les faire voir, pour montrer qu'il apporte la vérité à nos âmes, qu'il nous apporte la lumière. Il a voulu guérir des paralytiques pour montrer qu'il vient nous donner des forces spirituelles. Et de même, il vient ressusciter des morts, d'une part parce que cela annonce la résurrection glorieuse, c'est sûr, mais aussi d'abord parce que ça montre la vie de la grâce, la vie divine, qu'il vient rendre aux âmes prisonnières du péché mortel. Et donc les pères de l'Église soulignent que cela peut se faire à trois niveaux différents. Dans le cas de la petite fille, l'enfant, qui est ressuscité juste après sa mort, elle est encore sur le lit de sa mort, elle n'a pas quitté la maison, et en secret, il s'agit, disent-ils, de la personne qui a commis un péché mortel, sans doute entraîné par la faiblesse, par la légèreté, mais qui le regrette immédiatement après. Cette faute reste secrète, elle ne sait pas, une faute publique, et elle, la personne, en se convertissant, en se retournant vers notre Seigneur, peut en obtenir le pardon presque immédiat. À l'autre extrême, il y a l'adulte qui est non seulement qui meurt, mais qui est mené au tombeau, et dont les proches pourront dire « déjà, il se décompose, déjà on sent l'odeur de la mort ». Et ça, c'est l'image du pécheur endurci. Lui aussi peut recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il l'accepte. Non seulement il est tombé dans le péché, mais il y est resté. Puis sans doute il a commis d'autres péchés à la suite, et il y est resté pendant un temps plus ou moins long. Il s'est enraciné dans le péché, et pourtant il peut être ressuscité par notre Seigneur. Et puis, entre les deux, il y a le miracle que l'on vient d'entendre, c'est cet adolescent qui n'est pas encore enterré, il est sur le chemin, il est mort, et on le mène à la sépulture, et c'est là que notre Seigneur intervient, il arrête les porteurs, et les pères de l'Église y voient la personne qui a commencé à pécher, qui est tombée dans le péché, un péché sans doute plus manifeste que celui qui est symbolisé par la fille de Jaïr, et qui commence à s'installer dedans, qui risque de s'endurcir, mais le bon Dieu intervient à temps et vient calmer les porteurs qui le mènent à l'ensevelissement, c'est-à-dire les passions. Parfois, notre Dieu intervient par un événement un peu douloureux, par une épreuve qui fait rentrer la personne en elle-même, et ainsi elle réfléchit et elle peut recevoir la grâce de la résurrection spirituelle. En conclusion, mes frères, ne laissons pas passer cet évangile sans nous renforcer dans la foi, l'espérance, la charité. Dans la foi, d'abord la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ montre qu'il est Dieu et qu'il commande à la vie et à la mort. Dans l'espérance, parce que cette résurrection nous annonce la résurrection glorieuse du ciel. Pensons au ciel, pensons à cette résurrection qui nous attend. Et dans la charité, c'est-à-dire dans la vie de la grâce. Alors évidemment, si par malheur nous ne sommes pas dans la vie de la grâce, nous avons péché mortellement, il faut la retrouver, et le plus vite possible, notre Seigneur peut nous la rendre par le ministère des prêtres. Et si nous y sommes, il faut non seulement cultiver cette vie de la grâce, Mais il faut se préoccuper des autres, parce que nous avons vu comment Jésus intervient pour ressusciter des morts, parce qu'il est ému par les pleurs de ceux qui les entourent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui sont dans le péché, et malheureusement, il n'y a sans doute pas assez de gens qui pleurent sur leur misère. Et c'est en pleurant sur eux, en suppliant pour eux, qu'on pourrait obtenir leur conversion. Donc, si, grâce à Dieu, nous vivons dans la grâce, si nous sommes dans cette vie surnaturelle, pensons à intercéder pour les pécheurs. C'est ce que fait la Sainte Église à chaque messe. Et c'est pour ça qu'on peut dire que lorsque notre Seigneur rend le mort à sa mère, c'est l'image de l'âme ressuscitée à la vie de la grâce qui est rendue à l'Église. Et cette intercession est aussi celle de la Sainte Vierge au ciel, bien sûr. Mais unissons-nous-y et faisons partie de ces gens qui pleurent sur nos péchés, mais qui pleurent aussi sur les autres, qui intercèdent pour eux, car bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.